Ваш
привіт.
Приходь до нас. Як у вас стало
вольно?
Common Voices.
Common Voices Radio. Comme d'habitude, comme on a l'habitude de le dire chez auditeurs de la Radio Coax, quand c'est important, c'est avec la Common Voices Radio. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter une émission qui portera sur le continent de l'Afrique, mais spécialement sur les infrastructures, le problème des infrastructures et les routes. Et pour cela, l'émission, on va le faire avec notre invité qui s'appelle Marem. Il y a certains, ils ont déjà reconnu sa voix à travers la Radio Corax, mais aujourd'hui, elle va faire l'émission avec Common Voices Radio et avec le journaliste qui est au Sénégal, Moustapha. Toujours, il y a notre spécialiste, Tim, qui va faire la traduction.
Ja, hallo liebe Common Voices HörerInnen da draußen. Wie pflegt Usman, unser Moderator, immer zu sagen, wenn es wichtig ist, dann auf Common Voices und der Frequenz, die euch allen bekannt sein dürfte, Radio Corax 95,9. Wir sind heute wieder mit speziellen Gästen ausgestattet. Einmal ist Mariam hier und zugeschaltet unser Senegal-Korrespondent. Unser heutiges Thema wird sein, der Kontinent Afrika und seine Infrastruktur. Darüber zu reden, wie sich das Ganze so entwickelt hat und viele andere Fragen, heute euch ein bisschen darüber zu berichten. Herzlich willkommen.
Le thème, c'est Mariam même qui l'a choisi de faire cette émission sur le continent africain, les infrastructures et les problèmes des routes. Peut-être on va laisser se présenter avant qu'on va avec Moustapha, quand elle va nous dire aussi le pourquoi elle a choisi ce thème.
Mariam selber hat das Thema eingebracht und vorgeschlagen für die heutige Sendung. Lassen wir sie am besten sich erstmal selber vorstellen und vielleicht darüber berichten, wie sie jetzt auf dieses Thema kam.
Et ne soyez pas surpris aussi, chers auditeurs, quand vous l'entendez aussi des petits-enfants qui vont parler. C'est comme une voix radio. Nous, notre émission, tous sont la bienvenue. Donc, on a aussi une petite fille qui va faire aussi émission avec nous.
Und lasst euch auch nicht überraschen, es geht wie immer super familiär bei uns in der Common Voices Redaktion zu. Auf Mariams Rücken ist ihre Tochter angeschnallt, wenn sie sich ab und zu Wort meldet. Also nicht wundern lassen, wir sind für alle da und berichten.
Donc Mariam, avant tout, tu vas te présenter avec les auditeurs de la Radio Corax et nous dire aussi pourquoi tu as choisi ce thème avant qu'on va retourner chez Moustapha.
Bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs de la Radio Corax. Je suis Mariam Dembélé, une comédienne animatrice aussi, qui est ici aussi à la Radio Corax avec Ousmane qu'on apprend auprès d'eux. J'ai choisi aussi ce thème parce que l'Afrique a besoin de se développer et pour développer un continent, il faut obligatoirement cibler les infrastructures et investir dans ça. Donc c'est pourquoi j'ai demandé à mon chef Ousmane de faire une émission sur ça.
Ja, hallo, schönen Abend, liebe HörerInnen. Ich bin Mariam und selber Kabarettistin und Kulturaktivistin und mir liegt das Thema Afrika sehr am Herzen, denn Afrika ist ein Kontinent im Aufbruch und muss sich entwickeln. Von daher ist es ihr eine große Freude, heute hier im Studio zu sein und viele Fragen diesbezüglich zu beantworten.
Merci Mariam de l'introduction. Donc peut-être, ou bien tu as quelque chose encore à dire?
Non, pour le moment, rien.
Donc, merci de l'introduction. Peut-être je suis un peu étonné, je me demande même, est-ce que tu n'as pas fait des études économiques? Parce que quand le point le plus essentiel du développement, c'est d'abord les infrastructures.
Mhm. Also Ousmane fragt sich, ob Mariam nicht vielleicht auch irgendwie so ein bisschen aus der Wirtschaft kommt oder diesbezüglich was schon mehr weiß, weil wenn er den Begriff Aufbruch hört und Entwicklung, dann ist es immer eine Frage der Infrastruktur und wenn sie das gleich ins Spiel bringt, da sind doch ein paar Hintergedanken, oder?
Non, pas du tout. J'ai pas fait des études d'économie, mais j'ai fait une étude artistique, l'Institut National des Arts, le Conservatoire, et voilà.
Nee, also es besteht da überhaupt kein Bezug zu dem Thema, jetzt aus wirtschaftlicher Perspektive. Sie ist Künstlerin und hat da den Background, von daher hat das nichts mit wirtschaftlichem. Aber dennoch ist die Frage wichtig.
Mais je fais aussi des formations dans l'entrepreneuriat, peut-être c'est ça.
Entrepreneuriat,
ouais.
Selbstständigkeit?
Ou? Ouais, entrepreneuriat dans le développement et aussi au niveau des associations.
Okay.
Ouais.
Also sie beschäftigt sich aber auch viel mit GründerInnen und im Bereich der Vereine und vielleicht auch Kulturorganisationen. Vielleicht kommt das daher.
Raison pour laquelle elle a touché un peu de l'économie. Peut-être on va prendre l'avion et aller au Sénégal voir Moustapha, ce qu'il va nous parler. Mariam, elle est malienne, hein? Donc, c'est notre voisine, Moustapha. Moustapha, on va te laisser faire ta présentation.
Ja, bonjour.
Mariam ist ja aus dem Mali, Nachbarland des Senegal. Steigen wir mal in den Flieger und schalten uns zu unserem Senegal-Korrespondent, Moustapha Camara. Was ich.
Bonjour, Ousmane. Bonjour, Tim. Bonjour, Mariam Dembélé. Bonjour la Radio Corax, mais bonjour Halle et bonne émission à tout le monde. C'est intéressant, les infrastructures en Afrique, mais aussi l'économie. Et on va en parler, Inch'Allah.
Ja, auch seinerseits sehr herzlich gegrüßt allesamt und er freut sich über das heutige Thema berichten zu dürfen, nämlich die Infrastruktur des Kontinents Afrikas, ein Kontinent im Aufbruch.
Madame, tantôt tu as dit tu aimais l'Afrique, tu aimais que l'Afrique se développe. C'est pourquoi que tu as choisi ce thème.
Oui.
Mais avant tout, pour entrer cela, on va chercher de voir donc le développement c'est quoi. Qu'est-ce qu'on entend par le développement? D'accord. Pour toi, qu'est-ce que vous entendez par développement? L'Afrique doit se développer. Mais le mot développement, qu'est-ce que tu entends par développement? Développement, c'est faire la théâtre ou bien?
Entwicklung für dich, was meinst du jetzt genau, wenn du jetzt an Entwicklung denkst des afrikanischen Kontinents? Woran denkst du da als Künstlerin vielleicht auch oder im Allgemeinen?
Ben, pour moi, le développement, c'est investir tout d'abord dans l'éducation et la santé. Et qui dit l'éducation et la santé, il faut parler aussi de l'alimentation. Donc, moi, je vois le développement dans ce sens-là, parce que sans la santé, on ne peut pas se développer. Sans l'éducation aussi, ça serait difficile. Donc, pour moi, se développer, la base même, c'est ça.
Also, jegliche Entwicklung und Fortschritt bedarf natürlich auch einer Investition. Investition in welchen Bereichen? Primär ist es einfach wichtig, in den Bereich der Gesundheit und in den Bereich der Bildung zu investieren, weil das ist das Fundament von allem, also schon auch in den sozialen Bereichen. Und wenn man sich diese Fragen stellt, dann ist es auch wichtig, das an der Ernährung festzumachen. Also, was sind die Ressourcen, um die Menschen einfach erstmal so weit zu bringen, dass man über Entwicklung sprechen kann.
Donc, je vais atteler toujours dans ta réflexion, parce que dans le terme de développement, donc ça nécessite une transformation. Donc, ce que tu as dit, le développement constitue à aller à un point B pour se déplacer d'un point B pour aller à d'un point A pour aller à un point B. Mm-hmm. Comme c'est tantôt, on peut dire que l'Afrique aujourd'hui est dans une situation très critique. L'Afrique est en raison pour laquelle on parle que l'Afrique est un pays en voie de développement. Donc, il a besoin de s'améliorer. Donc, en termes de développement, on peut avoir l'aspect social, l'aspect démographique, l'aspect territorial et l'aspect matériel.
Ja, also wenn man von Entwicklung spricht, dann ist es ja auch ein Transformationsprozess. Also man spricht davon, dass man vielleicht von einem Punkt A, der Ist-Zustand, nach einem Punkt B kommt. Und wenn man jetzt von dem Kontinent Afrika spricht, dann kann man auch nicht verleugnen, dass man teils wirklich kritische Infrastrukturen vorfindet. Also es gibt einen großen Bedarf der Entwicklung. Und da gibt es halt viele Bereiche, in die investiert werden müssen. Sei es jetzt in dem sozialen Bereich, so wie du es angesprochen hast, in dem vielleicht auch demokratiefördernden Bereich, in der Bevölkerung und vielen anderen Punkten. Das ist eine ganz Bandbreite an Punkten, die da vielleicht eine Rolle spielen, oder?
il y a, bien sûr, tout ce que vous venez de dire, ça rentre dans les infrastructures et au niveau du développement. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, le transport, parce que pour développer un pays, on a besoin aussi les transports, parce qu'il y a le problème du transport en Afrique, et surtout notamment au Mali. Si je prends, par exemple, le Mali n'a pas de port, il n'y a pas de mer au Mali, mais si... il faut que le Mali achète les matières premières et le Mali est obligé de passer par le port du Sénégal ou le port de la Guinée-Conakry ou bien le port de la Côte d'Ivoire. Donc, le Mali n'a pas une route de train. Et alors que si on fait les remarques en Europe et ils font rentrer leurs marchandises par le train, parce que c'est le moins cher. Si on fait rentrer les marchandises par les bus, les camions ou bien l'avion, ça devient très très cher et l'Afrique n'a pas ce moyen-là. Donc le transport joue un élément clé au niveau du développement en Afrique. C'est même aussi un élément clé pour les infrastructures. Ça fait partie des infrastructures, le transport.
Mhm. Ja, also wenn man von Entwicklung und Transformationsprozessen redet, dann muss man auch ganz wichtig erstmal über Transport reden, denn der Transport spielt einfach eine Schlüsselrolle, sei es jetzt Privattransport oder auch Güterverkehr. Sie, Mariam kommt ja aus dem Mali. Mali hat keinen direkten Hafenzugang, heißt die Häfen, von denen die ersten Materialien, die wichtigen Rohstoffe kommen aus dem Senegal, Conakry oder der Elfenbeinküste und Bus oder LKWs oder Flugzeuge sind natürlich viel zu teuer. Also es gibt eigentlich nur den Weg, der mit Güterzügen das zu transportieren und diese Transportmittel müssen einfach weiterhin ausgebaut werden, weil sie die Grundlage dafür sind, wie kann sich das Land eigentlich weiterentwickeln.
D'accord, tu me parlais de transport. Oui. C'est vrai que qui connaît Mali, qui, peut-être ceux qui connaissent l'Afrique, ils connaissent bien que Mali n'a pas l'accès à la mer, raison pour laquelle il n'a pas de port. La majeure partie, les marchandises qui transitaient pour aller vers Mali, ça se passait au port du Sénégal, qu'ils transportaient vers Mali. Mm-hmm. Mais le malheur entre Mali et Sénégal, avant il y avait la voie ferrée, il y avait le train qui assurait ce transport, mais maintenant, actuellement, tel n'est pas le cas.
Ouais.
On n'utilise que les routes, avec les LKW, les camions, les routes ne vont pas. Le plus souvent, il se détériore avec les poids aussi, des camions.
Ça n'existe plus.
Il y en a, mais c'est en mauvais état.
Ah, okay.
Il n'y a même plus de train. Hein.
Yeah.
Ouais, mais le train, il y en a, ça n'existe plus actuellement entre Sénégal et Mali.
Okay. Also eigentlich muss man sagen, für Mali, das ist ja ein Nachbarland, ist vom Senegal. Senegal ist ja die westafrikanische Zipfel, wo halt ein Hafen besteht, Zugang zum Meer, wo sehr viel Waren sozusagen angekommen sind, die auch für den Mali gedacht waren. Die sind dann früher, gab es noch, mit dem Zug sozusagen in den Mali transportiert worden. Diese Zugstrecken sind aber in solchem schlechten Zustand, dass das eigentlich nicht mehr gewährleistet ist. Wurde auch nicht ausgebaut. Heißt, es wurden nur teurere Varianten und Alternativen genutzt, wie eben mit LKWs transportiert. Ja.
Donc, Madame, tu vas nous excuser. On va laisser Moustapha nous donner aussi son point de vue par rapport à l'idée que tu as évoquée, même sur le développement. Parce que tu as évoqué deux points très essentiels concernant le développement. Mm. Qui parle de développement sans la santé, sans les infrastructures, je pense que là, se développer, ça serait une chose très difficile.
Ja, da sind wir ja schon mittendrin im Thema bei der großen Frage Afrika, ein Kontinent im Aufbruch. Wie wird man das, diesen Transformationsprozess herankurbeln? Wollen wir mal Mustapha Kamara aus dem Senegal jetzt zugeschalten nochmal fragen, was er denn davon hält, ob vielleicht auch Transportmittel da eine Schlüsselfigur spielen.
Voilà, Ousmane, merci Mariam qui a donné une bonne définition du développement. Et il faut savoir que le développement engendre deux systèmes, c'est-à-dire qu'il y a l'économie, mais il y a le social. Donc, quand on parle de développement, mais le développement engendre l'économie, mais aussi le social. Le social, il y a dans le social la santé, mais il y a dans l'économie aussi le transport, et les moyens de la mobilité entre les pays africains.
Ja, Mariam, vielen Dank dafür, dass du schon mal so einen wichtigen Einstieg in diesen Entwicklungsfortschrittsbegriff irgendwie reingebracht hast. Wenn man, man muss da einfach von zwei Begriffen sprechen. Einmal natürlich Entwicklung im wirtschaftlichen Sinne und dann Entwicklung im sozialen Sinne. Sozial fasst natürlich auch unter Gesundheit und Bildung, so was du ja schon bereits gesagt hattest. Bei wirtschaftlich ist die Mobilität auch eine richtige Frage und stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass es eine Schlüsselrolle spielt, weil wie einerseits innerländisch, aber auch wie sind die miteinander verzahnt? Hast du ja ganz gut erklärt, im Mali als Nachbarland vom Senegal, was ja nun mal den Zugang zum Wasser hat, dass da die Mobilität auch interkontinental, wie man das sozusagen löst, eine wichtige Frage ist.
Voilà, donc le développement économique nécessite notamment la création de richesses, donc la création de richesses. Donc, à partir d'un pays, il faut développer la richesse. Mais quelles sont les richesses de chaque pays en Afrique? Et à partir de savoir quelles sont les richesses de chaque pays d'Afrique, et à partir de ces richesses-là, les développer, les transformer, et qu'il y a une plus-value. Donc, maintenant, dans le développement social, qui trouve toute sa solution dans le développement économique. Parce que si on ne crée pas de richesses, on ne peut pas avoir des hôpitaux. Si on ne crée pas de richesses, on ne peut pas avoir de routes. Si on ne crée pas de richesses, on ne peut pas avoir des écoles, on ne peut pas se soigner, on ne peut rien faire. Donc, il faut les deux. Et les deux appellent d'abord à la création de la richesse. Quelles sont les richesses du Mali? Quelles sont les richesses du Sénégal? Quelles sont les richesses d'autres pays? Et maintenant, à partir de ces richesses, créer maintenant une économie qui peut faire des hôpitaux, des écoles, pour se soigner, pour aller à l'école, ainsi de suite.
Mmh. Erstmal ist es natürlich wichtig, dass jedes Land sich für sich selber erstmal fragt, was haben wir eigentlich für ein Reichtum oder was besitzen wir, was besitzt das Land jetzt ganz unabhängig davon, was außen kommt sozusagen. Dem muss man sich erstmal klar sein, denn das sind ganz individuelle und unterschiedliche Reichtümer. Und wenn man jetzt von Straßen, wenn man von Krankenhäusern, wenn man schon von Schulen und dem Ausbau in diesen sozialen Bereichen spricht, dann muss man kann das nur wirtschaftlich beantwortet werden, weil das alles, diese Infrastruktur auszubauen, braucht ja eben diesen Reichtum. Ja? Und dann kann man eben davon sprechen, man muss sich erstmal dieser wirtschaftlichen Situation gewiss werden, um das dann vielleicht auch zu finanzieren.
Oui, par rapport à ça, même, je vais te demander maintenant, dans le cadre, quel est l'environnement qui règne au Mali actuellement même? Oui, peut-être c'est ce qui vous a poussé à parler du développement de l'Afrique.
Hm. Wie sieht denn aktuell so die Situation aus oder der Diskurs im Allgemeinen im Mali?
Actuellement au Mali,
le micro.
Actuellement au Mali, rien ne va pas parce que il y a la guerre là-bas, comme on le sait. Il y a la guerre du djihadisme. Tantôt on dit le djihadisme, mais tantôt à chaque jour on entend des nouvelles versions. On entend aussi des réclamations venant des pays qui nous a colonisés. Et donc, le premier problème du Mali actuellement, c'est le manque de transformation et le manque de formation des jeunes. Parce que si tu vois, nous, on a ce qu'on nous dise, on a l'or, on a le pétrole, on a l'uranium chez nous, mais on n'a aucun matériel pour transformer ou pour faire sortir cet or-là en dessous de la terre. Donc, ces matériels, on est obligé de demander des aides des Européens ou d'autres pays, par exemple la Chine ou bien la Russie ou même des États-Unis pour venir faire sortir l'or et le transformer. Et très généralement, c'est très, très coûteux. Donc, le Mali ne bénéficie ni de son or, ni du pétrole qui n'a même pas encore commencé à sortir, et ni l'uranium. Donc, on a besoin au Mali, maintenant, les machines, ou en tout cas, les matériels de transformation, même au niveau de l'agriculture.
Ja, also um darüber in Mali sich, muss man sich erstmal vor Augen führen, was die aktuelle Situation ist. Ja, also es herrscht Krieg. Es gibt hohe postkoloniale Abhängigkeiten nach wie vor. Aber der Reichtum, wenn ihr vom Reichtum sprecht, des Landes ist eigentlich gegeben. Es gibt Gold, es gibt Uranium, es gibt Ölvorkommnisse. Aber es besteht keinerlei Infrastruktur, diese abzubauen. Heißt, und es gibt nach wie vor extrem große Abhängigkeiten. Wenn man sich jetzt sagt, okay, wir wollen nicht mehr nach Europa gucken, dann muss man nach Russland oder nach China schauen, um überhaupt zu gewährleisten, dass diese Materialien abgebaut werden können, weil keinerlei Technologien in dem Land bestehen, die das überhaupt abbauen können.
Ja, il y a des jours là, par exemple, au niveau du pétrole, il y a pas l'essence au Mali, même prendre un litre d'essence, le mettre dans le car et dans nos motos ou les voitures pour aller au travail, il y en a pas pour des raisons simple, parce que dans les petites villes au Mali, les djihadismes achetaient les djihadistes achetaient les échanges le pétrole pour ravitailler leur mobilité, leur matériel. Mais l'État malien a coupé ça, a interdit qu'on vende le pétrole dans les brousses. Donc les djihadistes aussi ont pris toutes les frontières, que ce soit au niveau du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et quand les camions viennent avec les pétroles, les djihadistes mettent le feu. Ça veut dire qu'aucun Malien ne peut trouver du pétrole et eux aussi non plus. Donc, ils ont même brûlé les bus qui fait le lien entre les différentes villes du Mali. Voilà.
Ja, also jetzt gerade vor zwei Tagen ist schon auch wieder was passiert, dass man eigentlich überhaupt keine Möglichkeit hatte Benzin oder also Tank sozusagen vorzufinden. Es gibt einen Krieg, der dort herrscht, dschihadistische Gruppen, die eben sehr radikal auch Busse und LKW und Lieferungen angegriffen haben und die in Brand gesetzt haben. Und es besteht aktuell überhaupt nicht die Möglichkeit, sage ich mal, einfach an die Tankstelle zu fahren, sein Auto mit Benzin aufzutanken, jetzt aktuell.
Peut-être toi tu nous parles des problèmes profonds par rapport au Mali. Mm-hmm. Parce qu'actuellement, comme le Mali est un pays en guerre, mm-hmm. donc la situation est plus critique que là-bas.
Oui.
Lui, il est au-dessus du développement. Parce que même pour se développer, il faut avoir la paix.
Oui.
Mais un pays qui n'a pas de paix, comment il peut se développer? C'est la question à se poser. Et la majeure partie des pays de l'Afrique, c'est ça le problème. Et il n'y a pas la stabilité. Donc sans la stabilité, on ne pourra pas penser au développement.
Exactement.
Also wir befinden uns in einem extrem kritischen Zustand, vor allem wenn wir jetzt über Mali reden, aber man könnte auch über mehrere andere afrikanische Länder reden, in denen der Zustand halt nicht gewährleistet ist. Es herrscht Krieg und ohne Frieden kann man von keiner Stabilität sprechen. Es sind super instabile Zeiten und wie kann ein Land sich in solchen Konditionen entwickeln? Es ist sehr schwierig, da von Entwicklung zu sprechen. Ja? Also diese Situationen sind gar nicht erst gewährleistet.
Oui, exactement. Ce que je dis, ça concerne aussi certains pays d'Afrique. Par exemple, au niveau de l'agriculture, on a beaucoup de terres, on peut faire l'agriculture. Mais si au Mali, jusqu'à présent, même le paprika, le poivron, le Mali est obligé d'aller acheter le poivron au Maroc pour le faire rentrer au Mali, le poivron, le piment, la pomme de terre qui est la matière première. Ici, le Mali n'arrive pas à produire tout ça à cause de la guerre et tout ça aussi manque de formation de la jeunesse malienne.
Ja, also es ist nicht nur in den Bereichen, man kann auch von der Landwirtschaft sprechen, Pfeffer, Paprika, Kartoffeln, also wirklich ganz basale Grundnahrungsmittel, die eben nicht zur Verfügung stehen wegen des Krieges, ja, die teilweise dann importiert werden aus dem Marokko oder sonst wo und das ist halt irgendwie eine Katastrophe, weil die ja dann dadurch auch viel teurer sind.
Bitte, Mustafa. Tu vas en étayer un peu parce qu'on a commencé par le concept de développement. On parlait du développement. On a évoqué l'aspect économique, l'aspect social. Mais tu vois, même on avait sous-estimé l'aspect environnemental. Mais quand on rentre dans l'environnement, si on fait le diagnostic du Mali, on voit que comme c'est un pays sable, est-ce que là-bas le développement est possible d'après ce qu'on vient d'évoquer?
Ist denn jetzt in so einem Land wie dem Mali, deiner Einschätzung nach, Kamara, ist es denn gewährleistet, in so einer instabilen Situation überhaupt sich zu entwickeln zu können?
Oui, Ousmane, c'est très difficile ce que vient de dérouler Mariam Dembélé sur la situation du Mali. C'est un peu une photo d'un pays et juste de l'Afrique. Mais ça peut se multiplier à travers l'Afrique et à travers le monde. Le développement est très difficile pour un pays qui n'a pas qui fait la guerre, un pays instable. Parce que on ne peut pas quand même. C'est les conséquences de la guerre. Les conséquences de la guerre sont nombreuses par rapport au développement. Ça engendre la pauvreté parce que la population ne peut pas subvenir à ses besoins. Mais la population aussi ne peut pas aller se soigner. Donc, il y a des problèmes au niveau de la santé, mais aussi des carences, c'est-à-dire que les enfants qui sont nés développent des carences. Il y a la malnutrition dans ces pays-là. Donc, et le développement, c'est à la base. La base, c'est d'abord avoir un bien-être. Et dans le cas du Mali et dans le cas d'autres pays qui sont instables, d'autres pays qui font la guerre, d'autres pays qui sont dans d'autres choses, des guerres intestines, ils peuvent pas se développer. C'est extrêmement difficile.
Ouais.
Pourquoi? Ouais. Parce que juste la dépense militaire prend énormément d'argent. Par rapport aux populations.
Ja, also es ist wirklich sehr schwer, da von einer Möglichkeit aus diesen instabilen Situationen rauszukommen. Das Bild vom Mali trifft es ganz gut. Es ist ein einzelnes Land, aber es ist auch repräsentativ teilweise für den ganzen Kontinent Afrika. Also die Konsequenzen des Krieges und die Konsequenzen der Instabilität sind in vielen Bereichen vorhanden. Es gibt Armut bei der Bevölkerung, es gibt gesundheitliche Instabilität, es gibt Unterernährung und dadurch auch eine demografische Instabilität. Die Geburtenraten sinken und es gibt eigentlich nur in einem Bereich sehr viel Ausgaben und das ist im militärischen Bereich. Und das hat natürlich überhaupt nichts, keine sozialen Aspekte, die dabei rumkommen. Ne?
J'aimerais ajouter quelque chose aussi concernant ce que Monsieur Kamara vient de dire. L'un des problèmes clés aussi de manque de développement de l'Afrique, ça c'est manque de formation des femmes. Parce que en Afrique, nous on a tendance à minimiser la femme, le rôle que la femme joue pour le développement de son pays. Parce que l'homme africain en général, surtout nous les musulmans, chez nous les musulmans, la femme n'a pas sa place dans les bureaux ou bien dans d'autres organisations qui font partie du développement clé de l'Afrique. Donc on pense que la femme a sa place que dans la cuisine avec son mari, préparer si son mari vient du travail, l'enlever ses chaussures, lui donner à manger et à boire et lui dire papa ou bien mon cœur, voici l'eau, va te laver. Donc il y a ce problème là aussi. On n'a jamais vu un pays développé en Europe sans les femmes. Mais en Afrique, même on prend l'exemple, nous, les femmes africaines qui sont en Europe ici, c'est qu'on aime avoir un mari, on reste à la maison, mais c'est le mari même qui le dit, hein, rester à la maison et eux, ils vont aller travailler. Donc, le salaire du mari seul ne peut pas suffire. Et tout ça, ça joue sur le développement de l'Afrique parce que dans les petites brousses en Afrique, on a besoin des sages-femmes, on a besoin des matrones, on a besoin des médecins, des médecins. Mais si une femme a la possibilité d'être mitée dans une ville, dans un village, un petit village, son mari refuse de la suivre. Alors que si c'est le mari qui est mitée, pour aller dans un village, la femme est obligée de suivre le mari pour aller. Donc, en tant que la femme, on ne donne pas sa place aussi. Par exemple, si la femme a eu son travail, elle est mitée, elle doit faire obligatoirement le choix entre son mari et son travail.
Elle laisse le travail pour rester dans le foyer. Et le village qui a besoin des soins, l'hôpital du village qui a besoin de sage-femmes, de matrones ou de médecins, va rester sans médecin, sans sage-femme. Donc tout le monde va venir dans la grande ville. Comment un pays peut se développer? En Afrique, tu vas jamais voir une femme qui conduit le bus ou un camion. C'est très très rare. Ou bien qui conduit le train. On va dire que ça, c'est un travail pour les hommes. Alors qu'en Europe, ici, il y a des femmes qui conduisent le bus, le train, l'avion, ainsi de suite.
Okay, da Mariam hat noch mal einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Bildung von Frauen ist auch eine ganz wichtige Sache. Vor allem in den sehr muslimisch geprägten Ländern Afrikas ist die Rolle der Frau entspricht sehr alten und nicht moderaten Rollenbildern. Ja, also die Frau ist da, kümmert sich klassisch um den Haushalt, zieht dem Mann die Schuhe aus, kocht ihm und sagt Hallo Papa. Und da muss man halt rauskommen, weil so kann das diese Entwicklung nicht passieren, weil auch wenn nur eine Person in der Familie ein Einkommen hat, dann reicht es nicht aus, dann befindet sich die Familie in Armut, ja. Und das ist meistens so, und da muss man auch sagen, dass es gibt einen Unterschied zwischen großen Städten und der dörflichen Regionen, dass dort das noch klassischer ist, weil es viel traditioneller gehandhabt wird. Und da wird eine Frau quasi vor die Entscheidung gestellt. Wenn du arbeiten möchtest, musst du dich entscheiden zwischen deinem Mann oder der Arbeit, weil beides zusammen geht nicht, ja. Und das ist eben ein großes Problem. Und da spielt die Bildung von Frauen auch eine ganz essentielle Schlüsselfunktion in der Entwicklung des gesamten afrikanischen Kontinents.
Juste un dernier mot concernant un exemple très frappant qui l'Espagne le 29 août 2024, l'Espagne avait signé une convention avec le Sénégal en demandant au Sénégal de l'envoyer que des femmes, 100 femmes ou je ne sais pas, 100 personnes pour venir faire les saisonniers en Espagne dans les champs là-bas pour cueillir des trucs, et ensuite les femmes devraient retourner ou rester. En tout cas, le projet était en 2025, au lieu de 100 femmes, ça serait 500 femmes. Mais toutes ces femmes-là qui sont venues en Espagne, on leur a dit, va rejoindre ton mari. Et les hommes sont venus les récupérer en Espagne pour partir avec eux en Allemagne, en Italie, en France. Donc le projet entre deux pays est tombé dans l'eau parce qu'on pense que la place de la femme, c'est dans le foyer uniquement. Alors que sans la femme, un pays ne peut pas se développer. Un continent ne peut pas se développer. Il faut que les hommes africains comprennent ça, que les femmes soient vraiment au cœur du développement de l'Afrique.
Mmh. Ja, also es geht vor allem auch an die afrikanischen Männer zu verstehen, dass die Entwicklung des afrikanischen Kontinents nicht ohne die Frauen gedacht werden kann. Da war jetzt nochmal ein Beispiel herangeführt. Es gab im 29. August 24 hat Spanien eine Konvention mit dem Senegal unterschrieben, dass nur 100 Frauen sozusagen Saisonarbeiterinnen nach Spanien gekommen sind, um dort in der Landwirtschaft zu arbeiten. Und im nächsten Jahr waren es dann schon 500. Also es gibt den Bedarf. Und es wird auch wahrgenommen, und das muss auch der afrikanische Kontinent sehen und halt fördern.
Peut-être, madame, je vais ajouter quelque chose sur ton intervention, oui. Parce qu'on parlait même sur les aspects économiques, mais tu nous as relancé même sur l'aspect social à un niveau très profond par rapport aux femmes. Parce que quand là où tu me parles là de l'émancipation des femmes. En Afrique actuellement, on donne même beaucoup de faveurs aux femmes. Mais attends, je vais te parler. Okay. Parce que c'est la femme africaine qui n'aime pas s'émanciper elle-même.
C'est vrai.
Elle parle, mais elle n'aime pas s'émanciper. Elle ne veut pas prendre la responsabilité. Tu me parles de femmes qui travaillent. Mais en Afrique, il y a aucune loi qui interdit aux femmes de faire des travaux, comme tu dis, de conduire des bus ou bien de faire la mécanique. Mais il n'y a personne. Il y a quelques rares qui ont commencé à le faire. Mais la femme africaine, quoi qu'on dise, même elle a dans sa tête, elle ne doit pas travailler. Elle doit rester toujours à la maison et prendre en charge des enfants. Peut-être c'est l'une des inconvénients de la culture. Mais c'est eux-mêmes qui doivent s'émanciper.
C'est l'éducation à la maison qui fait ça.
non pas l'éducation à la
maison. C'est l'éducation à la maison, c'est l'éducation sociale qui fait ça à la maison et dans les écoles. On dit aux femmes, ben ton diplôme là, c'est ton mari, c'est la réussite de ton mari, parce que la femme est obligée de briser son destin, sa carrière professionnelle pour soutenir son mari. Donc l'Afrique ne peut pas bouger. Hein. Il faut les deux carrières ensemble.
Ja, also Usman hatte jetzt zur Frage gestellt, es gibt ja keine Gesetze, die sozusagen sagen, eine Frau darf nicht einen Bus fahren, eine Frau darf nicht Züge fahren oder Berufen nachgehen, die eigentlich, eigentlich ausschließlich von Männern dominiert sind. Und da das sozusagen die internalisierten Sachen auch eine wichtige Rolle in der Emanzipation der Frau eine Rolle spielen. Und das ist also, da sagt aber Mariam, dass es eher kulturelle Gesetzmäßigkeiten gibt, ja, und eben ganz viel mit Bildung zu tun hat. Wenn die Schule oder wenn du von zu Hause aus eigentlich die ganze Zeit gespiegelt bekommst, du bist dafür da, deinen Mann zu unterstützen, dass er die Karriere macht, dann sind es natürlich so internalisierte Dinge, die dafür braucht man keine Gesetze machen, das wird sich so weitergeben und das hat viel mit Bildung zu tun.
Par rapport ce que tu as dit, parce que parce que le choix, ça revient aussi à la femme. Elle peut choisir de ne pas aller rejoindre son mari pour la vague qui était venue ici en Italie. Mais ceux qui sont partis, c'est leur propre choix. Elle pouvait refuser et dire que c'est pas vous qui m'a amené ici. Je suis venu pour travailler, je vais travailler. Mais je vais revenir toujours sur l'idée que je t'avais dit. Nous, c'est la femme africaine qui n'ont pas l'idée de travailler ou l'idée de s'émanciper à eux-mêmes.
Ouais, il faut reconnaître que les femmes africaines en général n'aiment pas aussi faire la formation, n'aiment pas aussi étudier, faire de longues études. C'est minime. Par exemple, quand on prend 100% des femmes qui aiment aller à l'école ou s'émanciper, tu vas trouver 20 ou 30%. Les autres, ils n'aiment pas. Mais elles ont peur de la pression sociale. C'est la pression sociale qui leur dit, et puis c'est l'éducation à la maison qui les force à faire ça. Et puis les femmes, les quelques-unes qui ont parti à l'école, qui ont fait de longues études, tu vas voir qu'elles vont dépasser l'âge de se marier ou même se voir rejeter pour avoir un mari, parce que les maris vont dire qu'elles sont autoritaires ou bien elles sont bien éveillées, parce que l'homme africain veut que sa femme soit au-dessous de lui, pas en dessus. Donc l'homme africain est très mal jaloux de sa propre femme quand la femme est plus éveillée que lui. Mmh. Ou quand la femme est bien payée que lui.
Alors tu voudrais dire que dans les universités, maintenant, il y a un taux de femmes peut-être de 20 à 30%, on pourrait dire ça, ou...
Oh oui.
Oui. Ja, also mittlerweile befindet man sich vielleicht sogar in dem Zustand, könnte man sagen, was jetzt Geschlechterverhältnis in den Unis angeht, zu 20-30% Frauenanteil. Also überhaupt nicht egalitär aufgeteilt und dieser soziale Druck ist halt extrem groß. Und Männer, also jetzt klischee-mäßig gedacht, ja, die Männer werden sich nicht für eine Frau entscheiden, die sich für diesen Bildungszweig entschieden hat, weil sie halt als autoritär gilt, weil sie lieber diese ganz klaren Geschlechterverhältnisse halt haben wollen, wo die Karriere des Mannes halt im Fokus steht und die Frau sich eher um den Haushalt kümmert. Also sehr traditionelle Rollenbilder und sage ich mal, wenn jetzt eine Frau sich entscheidet zu studieren, heißt es ja nicht, dass sie sich nicht trotzdem dann noch um die Kinder und die Caring-Arbeit kümmert und trotzdem noch um den Haushalt kümmert, da kommt es ja dann eine Doppelbelastung. Oui.
Donc, madame, peut-être, on va laisser peut-être Moustapha aussi donner son point de vue par rapport à ce point que tu as soulevé, qui va peut-être nous, même, qui va conclure notre thème même. Parce que aussi, c'est un point très important aussi en Afrique, parce que actuellement, ça fait l'actualité même en Afrique. Yeah. Le plus souvent, les femmes, ils se disent, eux, ils veulent aussi l'égalité entre femmes et hommes.
Alors, c'est en discussion.
Oui. Non, ouais. Avec discussion. Même au Sénégal, même à l'Assemblée nationale, l'ancien président avait voté une loi par rapport à ça, qui pour respecter la parité au niveau des sièges de l'Assemblée. Mm-hmm. Nombre de sièges pour les femmes et égal aussi au nombre de sièges pour les hommes. Mm-hmm. Rien que pour respecter la parité avec les femmes. Et mm-hmm. aussi, quand on voit les femmes, ils ont beaucoup de choses dans la tête. Vous avez les journées de la femme, journée des mamans, journée. Sans les hommes. Et toujours, on parle des femmes.
Okay, also Usman bringt ein, dass es tatsächlich schon auch einen Wandel gegeben hat. Ich meine, alleine das in den Unis wird vor 20 Jahren auch noch anders ausgesehen haben. Es ist im Gespräch, es wird darüber diskutiert, es werden Dinge eingeführt, um dem ein Augenmerk zu haben, was die Rolle der Frau angeht und die mehr mit einzubeziehen, gesamtkontextuell. Und wollen wir mal nochmal Mustafa Kamara fragen, wie er die Situation einschätzt, im Senegal vielleicht.
Voilà, Ousmane. Merci Ousmane, merci Mariam Demelé, mais aussi Tim qui fait la traduction. Donc, c'est vrai que Mariam a soulevé un problème qui est d'abord la conséquence dans le développement. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas assez de droits par rapport aux opportunités que leur offre la localité. Par exemple, si vous prenez, c'est en Afrique, hein, partout, même le Sénégal, si vous prenez par exemple la propriété foncière, c'est-à-dire que si vous recherchez aujourd'hui les femmes qui ont une terre pour cultiver, mais tu ne peux pas avoir 5 femmes sur 100. Donc, alors que les hommes possèdent les terres, mais non seulement possèdent les terres, mais se donnent les terres en héritage, ça les femmes. Donc ça, c'est un handicap de développement. Donc c'est déjà un premier handicap de développement. Les hommes se donnent les terres, mais aussi héritent les terres de fils, de père en fils. Alors que les filles qui sont dans la famille ne possèdent pas de terres pour cultiver. On leur donne, on les prête, on les loue des terres pour se réaliser dans l'agriculture. Ça, c'est un premier handicap de développement. Maintenant, il faut aller chercher les solutions. Les solutions entre les hommes et les femmes. Parce qu'il faut une égalité sur les opportunités qu'offre le pays, le village, pour que Le développement ne connaît pas de genre. Le développement, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme qui ne puisse pas développer sa localité.
Ja, also vielen Dank auch von der Seite von Mustafa Kamara, unser Senegal-Korrespondent, an Mariam, dieses wichtige und fundamentale Thema eingebracht zu haben. Denn man muss der Wahrheit ins Auge fassen, es gibt kein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Schauen wir uns alleine mal die Besitztümer im Senegal an. Wem gehört das Land? Wem gehören die Grundstücke? Da findet man nicht mal 5 Frauen von 100 Menschen finden. Ja? Also es gibt eine absolute Disbalance. Wenn Erde vererbt wird, dann von Vater zu Sohn. Da werden Frauen nicht mit reingedacht. Ja? Also es gibt überhaupt keine Gleichberechtigung. Und das spiegelt sich in allen möglichen wider, vor allem in was in die Entscheidung dieser Erde oder dieser Territorien angeht. Ja? Also da ist es wichtig, in die Gleichberechtigung zu gehen und das zu forcieren, weil Entwicklung, wenn man von Entwicklung spricht, Entwicklung ist es egal. Es geht einfach nur um Menschen, nicht um Mann oder nicht um Frauen. Entwicklung muss für alle da sein. Und solange da eine Person oder eine Gruppe oder benachteiligt wird, kann man nicht von einer Entwicklung sprechen.
Donc peut-être avant qu'on va faire une pause musicale, je vais faire une petite conclusion par rapport à ce thème pour qu'on revienne sur notre programme. Peut-être comme tantôt ce que vous avez évoqué, peut-être ce qu'on va faire en Afrique. Il y a les présidents, toujours on a président d'hommes. Je pense qu'il n'y a pas encore un pays où on a un président, une présidente. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va chercher une présidente. Donner maintenant la présidence aux femmes qui vont gérer et on va essayer de voir comment l'Afrique sera.
Ja, okay, wir machen eine musikalische Pause hier bei Common Voices, Radio Korax 95,9 und kommen gleich wieder zurück zu dieser hitzigen Diskussion und spannenden Debatte. Bis gleich.
Donc pour ça, écoutons la musique de Malakai. C'est une musique malienne, hein, que Malem nous a proposée.
Wir hören einen malischen Song. Salut. Faut éteindre les micros.
Na mizigi nyaira bella mae dengele ni zoro duingo no wa udengele dodo na dalla ale de afo kunga kokolo nyika tu ntina nyodara mi kampo bari la duli gamimbo wa malaga kote ma kelentai gele mi mi ni tige ivene iganga se kudo na duti bilai gata chinelo ni sira e mi madakula Me fega dana, ochi gandare la Sanichi Samigeru Kojima, Shuyami Menila, Mete Nandaru Bella Sema, Sema Ngoe, Iga Sema, Sema Ngoe, Mite Tinuna, Kasi Iganjo Kanga, Nada Te Tuna, Nete Tani Fugarima, Sema. Se my goye, se mage, minunji genge irala Niga se ma, malakete tonyo fula Katogan se sumay, medaga tadi funfu igula Niga se ma, se mangoe Niga se ma, se mangoe
Chers auditeurs de la radio Corax, donc on va retrouver sur notre thème qu'il s'agit de le développement de l'Afrique, les infrastructures. En parlant de développement, on ne peut pas parler de développement sans pour autant penser aux infrastructures, c'est-à-dire les routes, les hôpitaux et les écoles.
Ja, hallo, liebe HörerInnen, da sind wir wieder vorbei. Common Voices mit unserem heutigen Thema geht es um Afrika, ein Kontinent im Aufbruch und wie es sich vorangehen kann mit der Entwicklung des gesamten Kontinents. Da hatten wir jetzt schon drüber gesprochen, dass die Infrastruktur eine wichtige Rolle spielt. Wir hatten über als Schlüsselfigur auch die Rolle der Frau gesprochen, dass es da wäre, an der Zeit wäre für mehr, viel mehr Gleichberechtigung in vielerlei Bereichen und ja, ihr seid wieder da bei Common Voices. Herzlich willkommen.
Donc, en parlant de développement en Afrique, on ne peut pas parler des infrastructures, malgré que Mariam a évoqué aussi un point très essentiel, c'est-à-dire le rôle des femmes dans les institutions. C'est vrai qu'il n'y a pas une grande représentativité des femmes dans les institutions le plus souvent. Mais aussi, le problème majeur en Afrique, ce qu'on voit, ce sont les infrastructures. Parce que on ne peut pas parler déjà des institutions sans pour autant d'avoir de bonnes infrastructures. Parce que pour le développement, on a besoin toujours des bailleurs de fonds. Alors que les bailleurs de fonds, eux aussi, ils ont les agrégats des points étudiés dans un pays avant de vouloir investir dans ce pays.
Les bailleurs de fonds?
Ouais, les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les grands financiers.
OK. Qui ont des intérêts.
Ouais, les qui peut avoir des intérêts dans certains pays, c'est-à-dire on peut dire les capitalistes.
Mm-hmm. Ouais. Okay, also ja, wir haben gesagt, dass über die ja sehr männerdominierten Institutionen haben wir ja bereits gesprochen. Und wenn man über die Infrastruktur spricht, muss man natürlich auch von großen Unternehmen sprechen, die dort investieren, aber natürlich auch mit sehr sehr Eigeninitiativen Gedanken, also sehr von sehr kapitalistischen Motiven geprägt sind, die das dann voranbringen und das dann eigentlich auch weiterhin ausbeuten oder schwierige Verhältnisse forcieren.
Parce que c'est le point à évoquer le plus souvent, on dit que l'Afrique est le continent le plus riche en ressources minières. C'est ce qu'on dit. Et puis, c'est ce que révèlent les réalités. Parce qu'il y a toutes les ressources qu'on voit, on peut le trouver en Afrique.
Ouais.
Mais le paradoxe, l'Afrique est le continent le plus pauvre.
Ja, und wenn wir über den afrikanischen Kontinent reden, dann weiß man ja auch im Hinterkopf, dass es einer der reichsten Kontinente weltweit ist und also von den Bodenvorkommnissen, aber paradoxerweise eins der ärmsten Kontinente in der Realität ist. Ja, und das.
Ça c'est vrai, on reste pauvre parce qu'il y a pas de matériel de transformation.
Ja, und das liegt vor allem daran, dass es keine Materialien gibt, diese Rohstoffe umzuwandeln in richtige Produkte.
Les ressources souterraines qu'on a. Il y a aucun Africain qui, aucun pays africain, que ce soit le Sénégal, le Mali ou Burkina, qui a des machines pour faire sortir nos ressources souterraines. Les machines sont fabriquées où? C'est en Europe ou bien en Chine ou bien aux Indes ou bien, je sais pas, la Russie. Donc, pour si on a besoin de ces matériels pour faire sortir nos ressources, on est obligé de faire face à eux. Et eux, ils nous posent leurs conditions. Et malgré que les ressources sont pour nous, mais nous, on est obligé de donner 60% ou 70% ou souvent même 80% à ceux qui ont des matériels. Et nous qui avons et nos ressources, on prend que 20% ou 30%. Comment on va se développer?
Ja, und wenn wir von diesen reichen Bodenressourcen stehen, die ja nun vorhanden sind, aber das Material nicht vorhanden ist, die Maschinen nicht vorhanden sind, um diese abzubauen, dann spielt das Ausland natürlich eine große Rolle. Und das sind natürlich meist keine anderen als Europäer oder russisch oder chinesische Interessen, die diese Rohstoffe dann abbauen. Und das ist meistens dann noch an die Konditionen gebunden, 60, 70 oder 80% von dem Abgebauten dann wiederum abzugeben, bis hin zu exportieren und wieder importieren.
Et si on prend l'Europe, regardez, l'Europe fabrique des machines pour cultiver. Jusqu'à présent, nous, on cultive avec les dabas, avec nos dos sont cassés. Non seulement on est malade, on n'a pas de machines, alors qu'on a besoin de ça. Ces machines-là, est-ce qu'il y a un Africain qui fabrique ça? Et pourtant, il y a des jeunes Africains qui sont devant la porte de chez nous pour prendre du thé toute la journée. Au lieu de prendre du thé, il faut créer des lieux de formation.
Okay.
Au moins pour l'agriculture.
Und es gibt sozusagen keine, in Afrika werden diese Maschinen nicht produziert und dadurch wird davon halt auch viel verschenkt. Und das ist wiederum eine Frage der Bildung, um die Leute zu befähigen, sowas überhaupt zu initiieren zu können.
Peut-être on va au Sénégal demander un des assistants pour qu'il va nous parler. Le pourquoi? Qu'est-ce qui a causé cela? Parce que tantôt on dit que l'Afrique, comme tu as déjà écouté ce qu'on a évoqué. Mais Marem a soulevé le problème de moyens. Quelle est la cause? Pourquoi l'Afrique ne parvient pas à avoir ses propres ressources pour extraire?
Exploiter
ou extraire les ressources minières qui se trouvent dans le continent.
Afrika fehlen die Mittel. Wollen wir mal schauen, was Mustafa Kamara dazu zu sagen hat.
Voilà, merci Ousmane, donc merci Mariem pour encore ces pertinentes questions et mais ces pertinentes interventions. Vous savez Ousmane, l'Afrique a de sérieux problèmes dans la transformation de ses matières premières. Et ça existe depuis un peu longtemps, depuis l'ère de la colonisation. C'est-à-dire que l'Afrique devait, à partir de son agriculture, de son élevage, de sa pêche, et tout, donc avoir des machines pour transformer. Malheureusement, donc l'Afrique n'a pas non seulement ces machines pour transformer, mais l'Afrique même sort sa matière première qui lui revient en manufacture et encore plus chère.
Ja, also vielen Dank für diese bisher sehr aufschlussreichen Kommentare. Wir müssen uns fragen, seit wann besteht dieses Abhängigkeitsverhältnis? Und da kann man natürlich, muss man nicht weit denken, um an der Kolonialisierung Afrikas zu denken. Es sind immer noch postkoloniale Strukturen, postkoloniale Abhängigkeiten der einzelnen Länder. Warum nicht die Fischerei, die Landwirtschaft oder die Bodenressourcen dementsprechend ausarbeiten, weil es nicht geht, weil die Maschinen nicht vorhanden sind? Teilweise ist es wirklich so traurig, dass quasi die die unverarbeiteten Stoffe vom Boden dort abgebaut werden, exportiert werden nach Europa, dort verarbeitet werden und dann wieder zurück importiert werden nach Afrika und für viel teuer Geld gekauft werden. Und das ist einfach ein absurder Zustand, dem man ein Ende setzen muss. Und da kommt man auch nicht, sonst nicht raus.
C'est vrai ce que dit Marianne Dembélé sur l'insuffisance des infrastructures de transformation, oui, c'est vrai, c'est très insuffisant, il n'y en a presque même pas. Aussi, les infrastructures routières, c'est-à-dire que qu'est-ce qui permet aux Africains de s'interconnecter, c'est-à-dire que le Mali trouve une mobilité à se déplacer, les Sénégalais trouvent une mobilité à se déplacer par rapport à l'intégration économique. Ça, c'est deux. Le troisième effet, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous devons savoir? Est-ce que l'Afrique a un potentiel pour au moins se développer par rapport aux chaînes de valeur? Moi, j'ai dit oui, parce que l'Afrique a une population jeune. L'Afrique, tant soit peu, a une population un peu formée à l'extérieur de l'Afrique, mais aussi à l'intérieur de l'Afrique. Si la Chine, si la Corée arrivent à se développer, arrive à avoir des machines de transformation, arrive à transformer l'agriculture chez eux, mais aussi chez nous. Mais l'Afrique a le potentiel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous dis qu'il n'y a pas de volonté politique. C'est nos chefs d'État qui n'ont pas la volonté politique, comme la volonté politique des Asiatiques ou de certains Européens pour se développer et transformer la matière première.
Merci. Ja, also wir müssen einfach diese Infrastrukturfrage ist da wirklich fundamental. Es reicht nicht aus. Wir müssen auch die Straßen ausbauen, weil die Straßen, sei es jetzt Zugstrecken oder auf jeden Fall die Verbindung zwischen der, es muss sich alles besser vernetzen, ja. Und dann kommen wir an die Frage, hat Afrika denn ein Potenzial, sich zu entwickeln? Und Mustafa Kamara sagt da eindeutig ja. Es ist ein sehr junger Kontinent und es geht voran mit der Bildung. Wenn China oder Korea es schafft, warum schafft es nicht Afrika? Woran liegt der Unterschied? Und da muss man sich auch fragen, es scheint an politischen Motiven zu fehlen, an politischer Motivation da rauszukommen, beziehungsweise an nach wie vor extrem politischen Abhängigkeiten an koloniale Strukturen.
Peut-être Moustapha, là où
Ousmane, je termine par là-bas. Mm-hmm. Donc, je termine sur un cas d'école. C'est-à-dire que nous tous, nous avons appris chez nous la crise économique de 1929. En 1929, il y avait une crise économique en Europe et partout un peu dans le monde. Mais comment l'Europe s'en est sortie après 1929? C'est l'industrialisation. Et l'industrialisation a été faite par la jeunesse valide de l'Europe à travers la mécanisation. Et voilà un peu, en 1929, c'est récent, c'est pas longtemps, il n'y a pas longtemps, c'est après la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, tout nous vient d'Europe et tout nous vient d'Asie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est là toute la question que, qu'on doit s'interroger pour trouver les solutions.
Ja, und machen wir doch mal noch auch einen Zeitsprung zurück, in den es Europa nicht gut ging. Wir denken zurück, 1929, Wirtschaftskrise in Europa. Wie sind die denn da rausgekommen, die Länder? Durch die